France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Angélique Bouin, vous êtes en direct de Bruxelles et vous avez donc suivi heure par heure depuis la semaine dernière le changement de paradigme de cette Europe.
Et oui, avec ce sentiment très particulier de voir une page d'histoire se tourner. Mes interlocuteurs habituels ici, diplomates, fonctionnaires, eurodéputés, tous ne cessent de dire que non seulement l'Union change de visage, que l'unité dont elle fait preuve est totalement inédite, mais aussi que cette crise va bousculer leur agenda dans le domaine énergétique, de la défense et même de la politique agricole.
Et l'un des moments clés, Angélique, ça a été le sommet des chefs d'État et de gouvernement jeudi dernier.
Oui, convoqué la veille de l'offensive russe par le président du Conseil Charles Michel, qui pressentait alors qu'il devenait urgent de réunir la famille pour se préparer au pire. Réunion qui s'est finalement tenue le soir même de cette attaque. Un sommet où l'ambiance était très particulière, dit un diplomate, avec cette intervention en direct de son bunker du président ukrainien. Il est alors entré militaire et déclare « C'est peut-être la dernière fois que vous me voyez » vivant. Il y a eu, dit-on, un silence stupéfait. Et puis ensuite, ce tour de table avec une scène marquante, dit une autre source, alors que certains chefs d'État de gouvernement disaient redouter sur le sol européen un conflit jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, l'un des dirigeants présents les corrige et raconte sa propre expérience. Le nom n'a pas fuité, mais sans doute s'agissait-il d'un dirigeant d'un pays de l'ex-Yougoslavie. Deux moments très forts et un sommet qui change de nature, alors que les 27 avaient déjà validé à ce moment-là et dans une unité rare, sans en changer une virgule, le train de sanctions très costaud présenté par la Commission, eh bien, les dirigeants ont commencé à douter et à se dire que ce ne sera sans doute pas assez. Les 5 heures suivantes ont été une sorte de foire aux idées, résume un fonctionnaire européen. Comment cibler Poutine et Lavrov? Quelle banque des Swiftés? C'est là aussi que l'idée de paralyser en partie, la Banque centrale russe a été mise sur la table. Les 27 ont alors mandaté la Commission pour plancher sur tout cela dans le plus grand secret et le tenir jusqu'à vendredi soir et la fermeture des marchés.
Une unité sans faille des 27, donc Angélique. Même Viktor Orban n'a pas levé un doigt pour son ami Poutine.
Oui, c'est ce qui est notable dans toutes les décisions prises ici. Il y a des divergences de vues lors des différents débats, mais il y a aussi une sorte d'obsession à trouver très vite des compromis pour garder un front uni face à Vladimir Poutine qui a misé sur cette division. Il y a aussi ici une peur palpable dans les ambassades sur ce qui peut arriver. C'est comme ça qu'on a vu en quelques heures l'Allemagne lâcher Nord Stream 2, ce qui était impensable. Il y a ensuite, et ce n'est pas négligeable non plus, de nouveaux process décisionnels ici à Bruxelles, beaucoup plus efficaces qu'avant. C'est un héritage du Covid. Oui. Le COREPER, la réunion des représentants permanents des 27 auprès de l'Union, c'est les 27 ambassadeurs. Ce COREPER, eh bien, il a pris du pouvoir pendant la pandémie pour agir plus vite. Cette instance, en ce moment, elle se réunit 2 à 3 fois par jour pour acter des décisions, sous l'impulsion de l'ambassadeur français Philippe Léglise-Costa, qui dirige les débats car c'est la présidence française. Or, c'est un diplomate chevronné, très respecté ici, rompu aux négociations difficiles. Sachez que, comme ses collègues, il n'a sans doute pas mis un orteil dans son lit, au moins entre jeudi et lundi.
On imagine. Est-ce à dire, Angélique, qu'une fois la crise passée, tout aura changé, que les 27 parleront vraiment d'une seule voix?
Alors non, bien sûr, faudra pas être eurobéat parce que cette crise, elle peut aussi rebattre les cartes sur certains engagements pris. La Pologne ou la Hongrie, à qui, rappelons-le, on a tordu le bras pour s'engager vers la neutralité carbone en 2050 avec des mesures difficiles à prendre, eh bien, il pourrait bien nous dire très vite que la vie est déjà assez compliquée comme cela pour ne pas en rajouter, s'inquiète un centriste du Parlement. Et puis sur les valeurs ou l'état de droit, il reste du chemin à parcourir. Les négociations suivent leur cours. Ici, et la Pologne et la Hongrie continuent, nous dit-on, de bloquer des textes législatifs importants. Ils sont en première ligne face à la Russie, défendent haut et fort les valeurs européennes. Mais il faudrait que ça s'applique aussi sur la lutte, par exemple, contre la haine en ligne et la défense des droits LGBT. Sagace, un diplomate proche des négociations.
Merci beaucoup, Angélique, en direct de Bruxelles.